candidat d'extrême gauche, il défend lui aussi alors les couleurs du NPA, il défend l'extrême gauche et il s'appelle Philippe Poutou. Est-ce qu'il y a un espace politique? Allez-y messieurs, l'émission a commencé. On est en direct, je suis ravi de vous accueillir parce que vous allez pouvoir poser des questions en toute liberté à Nathalie Arthaud, la candidate LO, c'est comme ça qu'on vous baptise. C'est pas Arlette Laguillet, c'est Philippe, maintenant c'est Nathalie Arthaud et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau, Nathalie Arthaud.
Bonsoir.
Je remercie les internautes du JDD.fr parce qu'ils ont beaucoup de questions et on vous posera les questions du JDD. On répondra à la question du JDD. Merci à ceux aussi qui buzzent, comme on dit, sur le site lcpn.fr. Je rappelle que vous avez été la porte-parole d'Arlette Laguillet et aujourd'hui, vous êtes la candidate. Vous ferez votre zénith le 15 avril, c'est dimanche, c'est ça,
c'est ça.
Vous serez au zénith pour faire un jeu de mots. Il y aura au même moment la Concorde, il y aura François Hollande, il y aura le Marathon de Paris. Enfin, il y aura beaucoup de monde dans les rues dimanche. En tout cas, vous serez au zénith. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Face à vous ce soir, donc deux invités, deux experts, on peut les appeler comme ça. D'abord, Roland Castro, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes alors architecte, fondateur du mouvement L'Utopie Concrète. Vous avez sillonné, zigzagué, vous êtes passé du Parti communiste au PS, puis du PS au Parti communiste, pour revenir, là tout récemment, au PS, en tout cas soutenir Arnaud Montebourg, je ne dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça. Vous avez été Mao, c'est ça, je ne dis pas de... Il y a très 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 longtemps,
oui.
Et vous défendez aujourd'hui les banlieues, le vote des banlieues, en tout cas la question des banlieues qui vous tient très à cœur. Merci d'être là, et c'est la première fois je crois que vous rencontrez Nathalie Arthaud sur un plateau de télévision. Puis avec nous Guy Konopnicki, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes romancier, essayiste, vous chroniquez chez Marianne. Alors, vous avez été militant communiste, parce qu'on y reviendra, hein, Nathalie Arthaud, c'est le vrai candidat communiste, hein, c'est ce qui est marqué en bas. Vous avez été militant communiste de 68 à 72, je crois que je ne me trompe pas dans les dates.
Même un peu avant 68.
Un peu avant 68, et puis vous avez quitté le PC.
63 à 72.
Alors, soyons précis.
J'ai eu des responsabilités de 68 à 72.
Il m'a même cassé la gueule.
Des responsabilités politiques. On n'exagère pas, tu étais plus fort que moi, j'ai pas pu
vous casser la gueule. Vous n'étiez pas Mao, donc.
Des responsabilités politiques, je n'étais pas Mao, j'étais à la direction de l'Union communiste. Ensuite, j'ai été journaliste dans la presse communiste et j'ai quitté le Parti communiste en 1978. Voilà, j'avais adhéré au Parti de Valdécrochet, j'ai quitté celui de Georges Marchais.
D'accord.
Pour ça, je reviens sur Valdécrochet dans
je présente ce livre, parce que c'est important aussi de présenter les livres qui sortent. Il va sortir, ou il est sorti, c'est imminent.
Le 12 avril.
Le 12 avril, le jour où De Gaulle est parti, vous racontez finalement la fin d'une époque à travers ce livre. Nicolas Ebaline, c'est l'éditeur, je crois que vous êtes son premier auteur.
C'est une nouvelle maison d'édition.
Une nouvelle maison d'édition.
Voilà, donc c'est une initiative courageuse, c'est bien que se crée une maison d'édition.
Alors, je voulais juste vous montrer ces images, ça va évidemment pas vous surprendre, Nathalie Arthaud, mais ce sont ces images-là. Regardez, Arlette Laguillet, je crois que c'est après six élections présidentielles, ben voilà, Arlette Laguillet laissait la main. Elle est encore à la tribune, là, elle lance, elle est avec vous, elle vous soutient, j'imagine un petit côté comme ça, mentor, vous connaissez bien. Écoutez ce que dit Arlette Laguillet, voilà, parce qu'elle est quand même là un peu en ombre chinoise. Écoutez-la.
Je crois que je suis plus connue qu'elle. Hein, écoutez, vu mon âge et mes six campagnes présidentielles, j'ai fini par me faire connaître... effectivement, dans la population et aussi dans les médias. C'est pas pour ça que moi j'ai cessé de militer. Je suis toujours à la direction de Lutte Ouvrière et à ce titre-là, je continue à faire de la politique. Mais bon, il s'agit pas d'un retour, il s'agit simplement de montrer la continuité des idées que j'ai défendues toute ma vie avec celles que Nathalie Arthaud défend aujourd'hui, les idées communistes révolutionnaires.
Les internautes comme ça, qui peuvent, ça peut paraître un peu sévère dit comme ça, mais elle n'a pas le charisme d'Arlette Laguillet, même si Arlette, il l'appelle Arlette, disait toujours la même chose, elle faisait partie du paysage 68 ans, c'est ce que nous dit un internaute. Ça vous agace? Vous avez réussi à vous détacher comme ça de cette espèce de présence si forte d'Arlette Laguillet au sein de Lutte Ouvrière, puis cette espèce de présence comme ça sur la durée?
Et c'est pas une présence qui me gêne, au contraire, nous, cette continuité, nous la revendiquons. Nous la revendiquons, voilà. Nous n'avons pas changé de politique, nous avons toujours ces convictions-là, ancrées, chevillées au corps, voilà, ces convictions communistes révolutionnaires, effectivement, cette perspective de pouvoir changer la société, d'œuvrer pour une société sans exploitation, sans classe sociale, sans cette loi du profit, voilà. Alors, je ne me mets pas dans les pas d'Arlette Laguillet, mais au-delà d'Arlette Laguillet, dans tous ces générations qui se sont battues, même avant Lutte Ouvrière, le Parti Socialiste à son origine, Hein, le Parti communiste a ses origines également. Donc voilà, toutes ces générations-là de femmes et d'hommes qui ont rêvé, qui ont eu cet idéal-là, et que nous partageons encore aujourd'hui.
Juste parce que nos experts veulent prendre la parole, je sais que là, ça nous renvoie à d'autres époques de notre histoire, ce que vous dites, le communisme révolutionnaire. Mais elle vous apporte quoi, Arlette Laguiller? Elle vous donne un petit conseil? Elle vous donne des tuyaux? Elle vous donne comme ça, au-delà de la théorie, de l'idéologie, sur la manière dont on fait une campagne? Parce que c'est difficile de faire une campagne.
D'abord, elle suit ma campagne, effectivement, les interviews, les émissions, et puis on en discute, voilà, des arguments, des exemples, de l'actualité. Bien sûr, on discute beaucoup. Et oui, elle me donne des conseils. Et ce conseil que j'aurai toujours en tête, c'est qu'au-delà hein, de journalistes et des gens que j'ai en face de moi, que je m'adresse à des millions d'autres, et en particulier que moi je tiens à m'adresser, que nous tenons à nous adresser aux travailleurs, voilà. Parce qu'on a l'espoir que les travailleurs, eh bien, par leur lutte, transforment la société. Donc c'est à eux qu'on veut s'adresser.
Alors Roland Castro, vous soutenez Arnaud Montebourg, vous êtes passé par le Parti communiste. Comment vous entendez ce que Nathalie Arthaud, qui est jeune, qui est une jeune candidate, nous dit sur le communisme et le mot révolution? Ça sonne encore à vos oreilles?
Je vais vous dire ce que j'ai dit à mes enfants quand j'ai réadhéré au Parti communiste, quand Robert Hue a parlé de mutation. J'avais dit à mes enfants, on ne supprime pas communisme à cause de stalinisme, comme on n'a pas supprimé christianisme à cause d'inquisition. Voilà. Donc, je pense que c'est une idée qui n'est pas morte du tout. Voilà. Je pense qu'il dit que pas morte du tout. Il faut la lire dans le bon sens. Il faut lire le manifeste communiste dans le bon sens. Quand Marx écrit l'émancipation de chacun est la condition de l'émancipation de tous, et non la version collectiviste qui a été collectiviste.
Vous avez voté Nathalie Arthaud.
Staline l'avait lu dans le mauvais sens. Hein.
Exact.
Voilà.
C'est pas comment vous dire ça, mais ça me choque évidemment absolument pas qu'on parle de société sans exploitation. Alors maintenant, je ne vous dis pas que... je ne vous dis pas quel est le chemin, je ne sais pas quel est le chemin, je ne sais même pas si ça passe uniquement par ce que la plantation, les travailleurs, comme vous dites, mais je sais que l'idée libérale n'est pas forcément l'idée ultime de l'histoire.
Voilà. Juste cette question, c'est Santinaya, c'est son code sur le JDD, j'y peux rien, qui dit c'est toujours difficile de se faire connaître après 30 ans de présence d'Arlette Laguiller, et puis autre handicap, la référence à un modèle dépassé. Vous êtes d'accord avec ça? Vous dites, comme Roland Castro, après tout, non, ça reste toujours d'actualité.
Sur la référence à Arlette Laguiller, c'est comme si on disait à François Hollande, il y avait François Mitterrand, alors vous ne pouvez pas être candidat socialiste parce que...
Il
a tout écrasé. Alors si on oppose Sarkozy ou Gérald de Gaulle ou même à Georges Pompidou, là, il ne reste plus rien. Donc, je trouve que c'est... Vous savez, les gens veulent se faire critique de spectacle. Il y a une manière de parler politique, maintenant, qui m'insupporte. Je comprends que certains journalistes et politologues le fassent, c'est leur métier, disent « Ah, celui-là est meilleur que l'autre, il est bon dans les médias, il est bon en meeting. » On s'en fout. On s'en fout. C'est-à-dire que... une prestation de Mélenchon, c'est formidable. Un moment d'Arlette, formidable. J'ai écouté Nathalie Arthaud, il y a des choses qui m'insupportent, on pourra en parler, mais il y a des choses que je trouve formidables aussi. Donc, elle est elle. Elle est ce courant aujourd'hui, Arlette était ce courant il y a 30 ans, il y a 20
dépassé,
ans, il y a 10 ans.
Dépassé, nous dit l'internaute. Dépassé ou pas?
Dépassé, ça c'est la question du communisme et de la révolution. C'est-à-dire que quand on fait le bilan des révolutions depuis un siècle, c'est terrible. Alors évidemment que le courant qu'incarne Nathalie Arthaud a l'avantage de n'avoir validé aucun modèle. Il y a d'autres trotskistes qui ont soutenu Tito ou Castro, qui ont trouvé leur petit Moscou, parce que Moscou, Trotsky était
une incarnation, quoi.
Ils ont trouvé une incarnation. Il faut reconnaître à Lutte Ouvrière que non, eux, ils n'ont jamais validé aucune incarnation.
C'est Lutte Ouvrière.
Ça tombe bien parce que Cuba, c'est pas très gai. La Corée du Nord, la Yougoslavie, ça a fini tragiquement. Hélas, d'ailleurs, parce que c'est un des rares endroits où on peut dire, au fond, au moins Tito avait maintenu la paix pendant 50 ans entre ses peuples. C'est vrai que ce que nous avons sous les yeux, la Corée du Nord...
Caricature.
Ouais. Non mais effectivement, nous...
Nathalie Arthaud, dépassé ou pas? Parce que c'est un peu ce qu'on vous reproche.
Si,
c'est un vieux modèle, c'est dépassé finalement.
Des modèles. Nous, effectivement, ce qu'ont commencé à réaliser les révolutionnaires russes, hein, dans les premières années qui ont suivi la Révolution, si pour nous c'est un modèle, y compris ce qu'ont réalisé et ce qui a inspiré les communards, ici même à Paris en 1871, c'est un modèle. Un modèle d'ailleurs, hein, les communards, la Commune de Paris, qui a inspiré directement les révolutionnaires russes, Lénine, Trotsky. Alors voilà. Nous avons ces modèles-là, c'est-à-dire, y compris la Révolution française, d'un certain côté, c'est un modèle de voir effectivement des travailleurs, des millions de femmes et d'hommes, décider de prendre leur sort en main et de reconstruire la société sur d'autres bases, sur les leurs. Alors maintenant, vous me dites, c'est des modèles dépassés.
Mais c'est moi, ce que dit un internaute, il dit c'est compliqué.
Oui, là, voilà, je voudrais réagir là-dessus.
Ce qui me manque un peu, c'est le projet quand même.
Je voudrais réagir là-dessus. Mais justement, réagir là-dessus, c'est que je pense que moi, c'est le capitalisme qui est dépassé aujourd'hui. Le capitalisme est dépassé. Regardez quel est le gâchis de cette économie qui n'a jamais été aussi efficace, aussi productive, aussi capable d'accumuler des richesses, aussi capable d'aller de l'avant, et comment on n'arrive pas à résoudre des problèmes essentiels, vitaux, mais de la grande majorité de la population de cette terre, hein, que y compris dans un pays riche comme la France, cinquième puissance, hein, nous dit-on, hein, très, très fièrement, comment on n'est pas capable de construire les logements qu'il faut, dont les gens ont besoin, hein, dont les familles ont besoin pour vivre dans la dignité. Comment on n'est pas capable d'éduquer correctement, alors qu'on est capable de réaliser des prouesses médicales, hein, des prouesses médicales. Alors voilà, moi c'est ce capitalisme-là que je trouve dépassé. Je le trouve dépassé pour quelle raison? Bah, tout simplement parce que c'est une minorité qui décide à la place de toute la société, en vertu du fait que cette minorité, elle a apporté ses capitaux. Voilà. Alors, ce sont les investisseurs, ce sont les capitalistes, ils sont maîtres chez eux, ils ont un pouvoir, un droit de vie ou de mort sur les entreprises, sur des secteurs entiers, et ça, nous le contestons. Donc, c'est à partir de ce qu'on a sous les yeux et de ce qui ne va pas sur les yeux que ce qui ne va pas, et ce qu'on peut constater, que nous disons, la solution, la réponse à ça, c'est de diriger collectivement cette économie. Alors, l'idée de fond de communisme.
Roland Castro,
ça c'est un argument. Parce une assistante maternelle qui dit « Oui, Nathalie Arthaud répond à mes attentes, je suis salariée avec un SMIC, des heures supplémentaires jamais payées, une reconversion d'assistante maternelle payée avec des clopinettes, elle a l'air en colère. Et elle nous dit qu'il faut toujours travailler sans reconnaissance et elle va exactement dans le sens de ce que dit Nathalie Arthaud. »
En même temps, quelque chose que j'imagine beaucoup de gens vous reprochent, même s'ils sont d'accord avec vos idées, c'est que vous n'y allez pas.
Vous n'y allez pas.
Bah, dans les municipalités, au charbon au charbon de la société. Quand vous avez l'occasion municipale, par exemple, de pouvoir faire des choses...
Je suis élue au conseil municipal de Vaux-en-Velin.
Oui. Non mais, là, t'as dit que je suis élue.
C'est vrai qu'il y a, quand même, comment dire, il y a quand même, dans votre tradition, une culture incantatoire, mais qui n'est pas trop... porté sur le projet. Même, par exemple, quand vous parlez de capitalisme, je trouve qu'il faut, pour lire Marx, puisqu'on parle de Marx, quand même Marx, il a distingué trois bourgeoisies dans la lutte de classe en France. Il a parlé de la bourgeoisie industrielle, de la bourgeoisie financière et de la bourgeoisie bureaucratique d'État. Mmh. Spécialité française, l'ENA, on n'a qu'à appeler de ça.
C'est prémonitoire.
Et Marx, bon, vous pouvez parler du capitalisme, il faudrait quand même parler de la financiarisation de l'économie, qui est quand même une.
Pourquoi vous pensez que c'est un manque au projet, ça? C'est un manque au projet de Nathalie Arthaud.
Oui,
eh bien, vous savez qu'après Marx, il y a eu Lénine qui a expliqué qu'en réalité, tous ces capitaux-là se mêlaient, hein, s'étaient mêlés, et aujourd'hui, on ne peut que constater qu'il y a une interpénétration de cette bourgeoisie financière et de cette bourgeoisie industrielle. Qu'est-ce que font la famille Peugeot de leurs milliards? Qu'est-ce que fait Madame L'Oréal des 360 millions là, qui vont lui être servis en 2012? Elle les met sous son oreiller, vous croyez? Vous croyez qu'elle s'en sert comme... Mais non, elle ne les cache pas en lingots d'or dans sa salle de bain. Elle, hein. Elle les place dans les banques. Et c'est bien cet argent-là qui sert à la spéculation. Donc c'est une seule et même bourgeoisie.
Juste un mot,
notre internaute, parce qu'il veut s'exprimer.
Ce système est dépassé. Mais bien sûr que ce système est dépassé. Ce système est injuste, même s'il n'était d'ailleurs pas dépassé. Hein.
Et qu'est-ce qui fait que vous ne reveniez pas dans l'analyse?
Mais alors, il y a un problème. C'est-à-dire... Le dépassement du capitalisme, voilà. Trouver un système.
Un contre-modèle.
Un système qui fonctionne, parce que c'était Lénine, ben, il a mis en place un système qui n'a pas fonctionné. C'est pas parce que ça a fabriqué Staline, mais en plus ça a fabriqué Staline. Mais ce système n'a pas fonctionné. Voilà, économiquement, ça n'a pas fonctionné. Les paysans n'ont plus travaillé, les ouvriers n'ont plus travaillé. Et je suis retourné à Moscou il y a un mois, il y a 20 ans que j'y avais pas été. C'est formidable, on trouve à manger partout. Ce qu'on ne trouvait pas. C'était une situation terrible. terrible, un système bureaucratique ossifié qui fonctionnait, et la plupart des choses étaient tout à fait dans le dessin de Lénine, les organisations centrales, tout est collectivisé, tout est... Mais ça ne fonctionnait pas, et ça ne fonctionnait pas, et donc ça a débouché sur la dictature effroyable que l'on connaît. Et le problème est...
Non, une réponse. Non, je ne peux pas vous laisser dire. Je ne peux pas vous laisser dire jamais.
Il n'y a pas de contre-modèle.
Que le stalinisme était la continuité de l'œuvre de Lénine et des révolutionnaires. Jamais. Non, la bureaucratie stalinienne, elle a confisqué le pouvoir aux Soviets et elle a complètement détourné, caricaturé, déformé les personnes.
Lénine avait déjà confisqué le pouvoir aux Soviets.
Et par ailleurs, votre raisonnement, votre raisonnement de dire. Ça n'a, il n'y a pas de modèle. Parce, tout ça pourquoi ? Parce que ça n'a jamais existé. Mais excusez-moi, mais alors dans ce cas-là, tous les révolutionnaires. Mais si vous avez dit, vous avez tenu ce raisonnement.
Non, j'attends le projet.
Vous avez tenu ce raisonnement. Donc ça n'a jamais existé. Il n'y en a pas, etc. Et alors.
Décrivez-moi un projet. Bien, c'est ça que j'attends.
Moi, je crois que l'humanité, elle est capable de s'organiser bien mieux et d'organiser ses moyens de production bien mieux qu'elle ne le fait aujourd'hui. Que ça, bien sûr, c'est à construire. Bien sûr, c'est à inventer. Mais justement, moi, je fais confiance. Alors. Et je suis convaincue qu'il y a une force pour cela. Force, mais quand vous me dites vous voulez pas aller gouverner, vous voulez pas le pouvoir, mais c'est qu'est-ce que c'est ce pouvoir dont vous me parlez là? C'est ces pantins qui s'agitent au bout de ficelle qui sont reliés au marché financier, c'est cela, hein? Mais si, c'est ceux qui nous servent là des belles promesses, des programmes électoraux dont pas un ne sera tenu, parce que la réalité c'est que ceux qui dirigent, bah, c'est ce patronat qui vont décider du nombre de chômeurs, qui vont décider des salaires, qui vont nous dire on n'a plus d'argent pour payer les retraites, on n'a plus d'argent pour payer la santé. C'est cela. Parce qu'eux, ils ont un argument de choc, c'est l'argent.
Je sens que vous allez vous disputer là.
C'est eux qui disent.
Vous pouvez par exemple décider que sur une question comme l'école, on n'a pas besoin de renverser absolument tout le système, pourriez vous investir, vous avez un projet.
Il y a besoin d'argent pour l'école, vous savez pertinemment. Si, parce que moi je crois qu'il faut embaucher dans les écoles massivement. Ça passe donc par de l'argent.
Roland Castro,
on est d'une génération qui a dit que avec les situationnistes, l'humanité ne sera heureuse que quand le dernier capitaliste sera pendu avec les tripes du dernier bureaucrate. Une des questions dramatiques qui nous permet de penser ce qui s'est passé après la révolution d'octobre, c'est quand même le rôle de la bureaucratie, des gens qui ont joui encore plus du pouvoir que d'avoir de l'argent. C'est une question qui fait travailler le cerveau.
Attendez,
cette question-là, elle mérite que vous travailliez dessus. Et puis ne me dites pas qu'il n'y a pas d'espace ou dans lequel on peut exercer sa liberté, alors, y compris aujourd'hui, maintenant.
Roland Castro, juste, attendez.
Les gouvernements réformistes n'ont pas laissé les choses qui s'appellent la sécurité sociale, les 35 heures, les choses de
ni l'interactivité.
Ce sont des éléments communistes. Payer les gens à rien foutre, ça s'appelle les congés payés. C'est une invention historique inouïe.
Mais pas une invention des politiques, ça a été une invention de millions de travailleurs qui ont fait jouer leur... Ah bah, ils l'ont ratifié, c'est facile. Ils font ça. C'est ça leur rôle aux politiques, c'est de ratifier. De ratifier quand les patrons leur demandent et de ratifier quand les travailleurs sont pressionnés.
Un dernier mot. Qui a été voté les congés payés en 36 à l'Assemblée nationale? Ça s'est voté à combien? C'est extraordinaire.
La très grande majorité.
L'unanimité.
Mais ça ne m'étonne pas. Ils étaient forcés. Il y avait le feu dans la maison.
Même les crapules craquent. À des moments historiques.
Mais ils craquent pourquoi et sur quelle base? Parce qu'il y a des millions de travailleurs dans la rue.
Non. Nestor Elias, allez-y. Il est interdit.
Précédé par une victoire électorale du Front populaire.
Nestor Elias, allez-y. Attendez, ce qui est magique dans l'émission, Roland Castro, regardez, ce qui est magique, c'est qu'il y a un internaute, qui est un citoyen qui est connecté dans la webcam. Il est avec nous, en fait. Il participe au débat. Et lui est très calme. Votre question, Nestor Elias. Non, pas du tout. Vous êtes tutoyé, c'est déjà un début, là, vous commencez à vous rapprocher l'un à l'autre. Nestor Elias, vous êtes ouvrier, dites-nous, parce qu'on va voir un sujet là dans quelques instants sur les ouvriers de Florange qui ont marché 300 km, et puis ce week-end, ils sont arrivés sous la Tour Eiffel. Ils se sont. Comment vous regardez le discours de Nathalie Arthaud? Est-ce que vous vous retrouvez dans ce discours, ou est-ce que vous avez le sentiment, vous qui êtes ouvrier, que ce discours est dépassé? Alors, on l'a beaucoup attendu, Nestor Elias, mais nous ne l'entendons pas. Nestor Elias, vous m'entendez? Non.
Je vous entends pas par le téléphone.
Oui, alors Nestor Elias, comment vous entendez Nathalie Arthaud et comment vous entendez surtout son discours, puisqu'on a entendu là la manière dont elle parlait de la révolution et du communisme. Vous vous retrouvez dans ce discours, vous dites oui, effectivement, il faut renverser le capitalisme et c'est par lutte ouvrière qu'on y arrivera, ou vous pensez que c'est un discours dépassé?
le détail n'est pas là. Le détail, c'est que, bon, je viens d'un pays qui est la Colombie, et nous devons, en tant que naissant, que continent naissant à niveau culturel par rapport au vieux continent, eh ben nous avons des détails que vous pouvez regarder. Je ne sais pas si vous m'entendez.
Oui, on vous entend très bien. Posez votre question.
Donc, je sais que Nathalie, elle est tout à fait d'accord avec moi. Si j'ai dit que, par exemple, en Bolivie, il y a des progrès, en Venezuela, il y a des progrès, en Brésil, il y a eu des progrès, et vous êtes d'accord avec moi aussi, en sachant que en Bolivie et en Brésil, tous anciens syndiqués qui ont travaillé.
Nestor Elias, posez votre question. Nestor Elias, posez une question ou donnez-nous votre point de vue, vous, citoyen, au-delà de la position de l'Amérique du Sud.
Eh bien, vous savez, au-delà de l'Amérique du Sud,
non, mais votre cas.
Le printemps arabe. Et de toute façon, le monde, il est en train d'échanger parce que le capitalisme, il a montré ses limites. Et donc, Nathalie, elle est tout à fait dedans. Le capitalisme, il n'est plus valable. Et nous sommes en train de... Le monde, pas nous, hein, pas monsieur, madame, non. Le monde, il est en train de vivre un changement en ce moment. Mais les intellectuels, ils doivent le comprendre.
Merci.
Il y a un changement qui s'est fait parce que le capitalisme, il est incapable. Et vous avez vu l'émission que Publicis a présentée. Let Money, vous avez vu l'émission qu'on a présentée hier sur le capital, pareil, qui va être répété samedi et que je vais regarder encore.
Merci, Nestor Elias. Préparez une seconde question.
Le capitalisme, il est en train de mourir.
Merci, Nestor Elias. Juste un petit mot, puis on va voir ce sujet sur les ouvriers de Florange, mais je repose ma question parce qu'on a fait revenir les soviets sur le plateau, on a parlé de sujets importants, on est reparti aux racines de la révolution russe, mais pourquoi les Français aujourd'hui ne vous accordent pas de crédit dans les sondages? Alors vous allez me dire, je reviens à la politique politicienne, mais comment vous expliquez que ce discours aujourd'hui ne sonne pas? Et pourtant, tout le monde considère sur ce plateau que le capitalisme est une vieille machine en panne, malade, presque mourante. Comment vous expliquez que votre discours ne passe pas?
Oui, c'est un plateau un peu spécial, je pense. Je ne suis pas sûre qu'on soit tous d'accord d'ailleurs là-dessus. C'est un plateau spécial, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Il ne faut pas vous étonner de ça, hein, ceux qui sont... à contre-courant, ils ont toujours été minoritaires. Hein. Et vous savez, voilà, oui, c'est sûr que quand on entend du matin jusqu'au soir hein, que c'est la crise, qu'on ne peut pas faire mieux, que vraiment... Hein, et puis d'ailleurs qu'il y a toujours eu des riches, des pauvres, qu'il faut bien l'accepter, qu'on nous prêche la résignation du matin jusqu'au soir. Alors que les révolutionnaires, que ceux qui ont envie de tout changer soient peu nombreux, il ne faut pas s'en étonner. Ce que je voudrais rajouter, c'est que oui, le capitalisme, il est dépassé. Il y a autre chose qui me le fait dire, c'est que moi, dans cette campagne, je dis interdiction des licenciements. Je dis,
c'est une de vos trois propositions.
Je dis augmentation des salaires, le SMIC à 1700 euros, mais aussi indexation des salaires sur les prix, l'échelle mobile des salaires, une vieille revendication du mouvement ouvrier. Et à chaque fois, on me dit, ce n'est pas réaliste. Alors vous voyez, voilà, c'est pas réaliste de payer les travailleurs à 1700 euros. Eh bien, ça, c'est la preuve qu'on est dans une économie qui est dépassé.
Jean-Luc Mélenchon propose la même chose.
Dans un système capitaliste qui est dépassé, parce que s'il ne permet pas aux travailleurs de vivre dignement, ce système, eh bien, il est condamné.
Je donne la parole. On regarde tout de suite ce sujet, parce que c'est important. On parle du monde ouvrier, des ouvriers et des salaires. Il y a les ouvriers de Florange, de la sidérurgie. Ils ont décidé, alors, pour se faire entendre, à la fois de manifester, on se souvient de ces images et des bombes lacrymogènes aux alentours du QG de Nicolas Sarkozy. Puis là, ils ont pris leur bâton de pèlerin. Ils ont fait 300 km. Ils sont partis de Florange et ils sont arrivés à Paris ce week-end. Moment d'émotion, forte émotion parce qu'il y avait des ouvriers qui les attendaient 300 km pour faire entendre leur voix, la voix des ouvriers dans cette campagne présidentielle. Regardez ce reportage, Valérie Brochard et Fanny Saliou les attendaient.
Après 350 km de marche à pied, les 17 métallurgistes de Florange retrouvent, avec beaucoup d'émotion, les centaines d'ouvriers et manifestants venus les soutenir à Paris.
Dur, très dur. Dur, on a mal partout, on a des corps, on est meurtri. Mais franchement, quelle beauté d'être ici en marche sur Paris. Regardez, elle est là. Notre symbole à nous, elle est là, la Sélora. La Sélora vivra.
On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien.
Parti le 28 mars dernier de Lorraine, les ouvriers d'ArcelorMittal ont terminé leur périple vendredi sous la Dame de Fer. Tout un symbole pour ceux qui tentent de sauver leur aciérie. Cette fois, pas envie de rencontrer le président ni le candidat. On utilise les caméras pour sensibiliser l'opinion et parler directement au PDG d'ArcelorMittal. Deux hauts fourneaux sur trois mis en sommeil et ce sont des centaines de salariés contraints au chômage partiel. Alors, les ouvriers lancent un appel.
Si M. Mittal, il m'entend là, que ce soit clair. on est des professionnels, on est des travailleurs, on est des gens sérieux. Avant nous, j'ai mon père qui a travaillé, il y a son père qui a travaillé, etc., etc.
Même ma grand-mère.
Voilà. Donc, on a fait des produits depuis des années et des années. On a des clients, on a Volvo, Volkswagen, Renault, Peugeot, Audi, Mercedes. On fait des produits de qualité, on est reconnu dans le monde entier. Même des clients aujourd'hui se disent, mais s'ils ferment, où on va aller? Parce que ces gens-là, ils savent faire de la qualité.
À travers Florange, c'est aussi le mal de l'industrie française qui s'exprime.
Que ça va nous arriver à tous d'être licenciés, de toute l'industrie, quelles que soient les industries, petit à petit, ça va dégager.
Ce que les Français ne comprennent pas, c'est que ça va commencer en Lorraine et ça finira dans toute la France.
Officiellement, aucun soutien partisan, le rassemblement veut dépasser les clivages politiques.
Pourquoi qu'on est apolitiquement? Je veux mettre à part la politique. Parce que nous, le mot d'ordre aujourd'hui, c'est la défense de l'emploi en Lorraine.
Pourtant, une poignée de militants du NPA a fait le déplacement. Pour eux, les solutions se trouvent communément à gauche de l'échiquier.
Nathalie Arthos est une camarade. Ce qu'elle dit est pas trop mal. D'ailleurs, c'est pas trop loin de nous, mais on n'est pas adversaire du tout. On va dans le même sens. Et même y compris le front de gauche aujourd'hui, par certains aspects, va aussi dans le même sens.
Tous dans le même sens, mais le seul à s'être déplacé, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Nous, le 7 mai, avec tous nos copains de la Lorraine, le 7 mai, on est devant l'Elysée. Et peu importe qui c'est qu'à l'Elysée. Et on leur fera comprendre là, ce que ça veut dire.
C'est moi, la porte s'ouvrira. Hein.
Moi, je pense qu'il n'y aurait pas les élections d'ici peu. Il ne ferait pas autant de choses qu'il ferait là maintenant.
Dans 12 jours, les ouvriers de Florange et partout en France seront appelés aux urnes. D'après les derniers sondages, leur vote se porterait en masse vers le Front National, qui comptabiliserait 25% de leurs intentions de vote. Une nouvelle fois, les ouvriers ne semblent pas vraiment attirés par les sirènes de l'extrême gauche.
Alors, Nathalie Arthaud, vous étiez sur place ou pas? Pourquoi on voit dans le sujet qu'il y a des militants NPA, mais on ne voit pas les militants de lutte ouvrière? Vous y étiez ou pas?
Alors, dans votre sujet, vous ne voyez pas Arlette Laguiller, qui y était et qui a salué, donc... Vous avez raté Arlette Laguiller, qui était présente et qui représentait effectivement lutte ouvrière. Moi, je n'ai pas pu me rendre.
Je ne cherchais pas à vous piéger, mais
c'est moi qui finalement voyais. Vous ne l'avez pas vu. Bon, bah, écoutez, dommage
donc,
pour
ouvrière
vous.
Était parce que mais bien on sent sûr. Comme ça une bataille un peu... un petit peu comme ça entre l'extrême gauche du NPA, entre lutte ouvrière, entre Jean-Luc Mélenchon, à qui va s'accaparer ou séduire votre ouvrier?
Non, mais c'est pas la question.
C'est une vraie question.
La question, c'est que les travailleurs qui ont besoin du soutien et qui le demandent et qui sollicitent, eh bien, ils doivent l'avoir, bien sûr. Et nous, à chaque fois que nous sommes sollicités, que nous pouvons, effectivement, en tout cas moi, apporter mon soutien, je le fais maintenant. Nous ne sommes pas comme Sarkozy ou ses amis qui devons aller devant les entreprises faire notre petit cinéma. Nous appelons lutte ouvrière. Lutte ouvrière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que justement, nous sommes des militants dans la classe ouvrière, dans les aciéries, dans les usines, dans les lycées, dans les hôpitaux, parce que tout ça, c'est la classe ouvrière. Voilà, on est dedans et on est de tous les combats. Donc, c'est pas, on n'est pas les, ceux qui
vont...
Il n'y
a pas une bataille comme ça entre les partis, entre des chapelles, en quelque sorte.
Écoutez, lutte ouvrière, c'est toute notre politique, justement. Oui, c'est que les travailleurs se défendent par eux-mêmes. Alors, évidemment, pour nous, c'est naturel d'en être.
La question...
L'enjeu ouvrier.
Ce qui est tragique, c'est que cette classe ouvrière traditionnelle, celle qui nous faisait rêver, celle des hauts fourneaux, celle des industries mécaniques, elle est dans des combats de survie. C'était Grandrange, c'est Florange, c'est des combats souvent désespérés où à la fin, ce qui se négocie, c'est le plan social, les pré-retraites et tout ce qu'on voudra. Jusqu'à présent, hélas, dans la sidérurgie lorraine, ça s'est toujours terminé.
Chronique d'une mort annoncée.
Ça s'est toujours terminé comme ça. Alors, comme vous dites, nouvelle organisation collective. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec l'acier? Qu'est-ce qu'on fait avec l'acier? Alors, dans le communisme traditionnel, l'acier, c'était l'acier fut trompé, on produit. Finalement, il n'en est pas resté grand-chose d'ailleurs. Enfin, ça a surtout servi à alimenter une belle production militaire. Et après, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que là où le projet doit aller au-delà, projet de transformation de la société, le projet de... C'est aussi qu'est-ce qu'on fait, des choses concrètes, qu'est-ce qu'on dit à ces gens de Lorraine, dont les parents sont venus d'Italie, d'Espagne, du Maghreb, pour travailler dans les mines. C'est-à-dire que les mines soient fermées, au fond, c'était quand même le métier le plus effroyable. Si on trouve d'autres moyens de produire de l'énergie que l'on les gens
pour
font la mine.
Si vous entendez bien, vous dites finalement c'est un modèle, c'est un monde qui change.
Ça peut être un mal pour un bien. Ça peut être un mal pour un bien si le monde change et que les gens ont du travail et que les gens ont des perspectives.
Tout, tout,
voilà,
tout
la question est qu'est-ce
là,
qu'on fait. C'est pour ça que j'attends, j'attends votre projet.
Tout le problème est là.
Après la scie, on fait quoi?
Bah, nous pensons que, du point de vue des travailleurs, hein, le seul droit véritable, c'est le droit à avoir un emploi. Voilà, c'est le droit d'avoir un emploi. Je ne vous dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, hein, aller dans les mines alors qu'on n'en a plus besoin. Non, je ne vous dis pas ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a du travail, il y a de l'activité. Il faut absolument, c'est indispensable, la répartir entre tous les travailleurs. Voilà, et que le progrès, ça serait celui-ci. Ce serait qu'on se partage entre tous les efforts à faire, le travail à faire. Mais ça, je suis consciente qu'il va falloir l'imposer au patronat. Parce que ça veut dire partager les profits, ça veut dire prendre sur leurs profits, ça veut dire les obliger, eh bien oui, à diminuer les cadences, à diminuer les horaires de travail. Voilà, nous sommes pour l'interdiction des licenciements et pour qu'il y ait la répartition du travail entre tous les salariés. Là, en l'occurrence, pour Florent, ça serait très simple, très simple. Cette aciérie, elle devrait continuer, elle devrait soulager effectivement l'aciérie de Dunkerque, de Fos, etc. Voilà, parce que le problème qu'il y a dans tous les grands groupes, c'est qu'ils concentrent l'activité sur certains sites et sur certaines usines, et ils font trimer toujours plus les salariés. Et c'est pas une amélioration qu'il y a, c'est des aggravations des conditions de travail, c'est de plus en plus intense.
Mais c'est-à-dire, quelle prise vous avez sur la chemie Mittal qui est basée à Londres, qui est un groupe international? Enfin, je veux dire, lutte ouvrière, quelle prise peut avoir un parti français?
Non, mais c'est pas lutte ouvrière. Nous sommes bien conscients que les idées et le programme que nous défendons, s'il n'est pas repris par des millions de travailleurs, il ne sera pas imposé. Alors on est bien conscients, et moi je le dis, mais moi j'ai cette, comment dire, j'ai ce langage de vérité. Si vous voulez pas faire croire que moi tout seul, je vais tout changer, non, c'est pas vrai. La société, elle a changé quand il y avait des millions de travailleurs qui se battaient. Et moi, je suis effectivement pour que l'interdiction des licenciements, ça devienne notre mot d'ordre commun à tous, et pas seulement à ceux qui sont au pied du mur. Vous avez souligné un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est ceux qui se battent au pied du mur. Mais il faudrait que ça devienne une revendication à nous tous, l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous, des travailleurs en activité qui ont encore un levier justement pour peser sur le patronat.
Question de dalle, juste, je veux avoir votre point de vue, puis le débat avancera, puisque Nestor voulait reprendre la parole. Nathalie Arthaud dit presque toute la vérité, nous dit l'internaute sur le JDD. Le seul point noir, ce sont les interdictions de licenciement. On ne peut pas interdire les licenciements aux entreprises. Alors, c'est quelqu'un qui, globalement, trouve que ce que dit Nathalie Arthaud est formidable, sauf petit point noir, un de ces trois points, il dit que c'est pas possible, notamment la question du licenciement. On ne peut pas l'interdire. Quelle est votre position, vous, Roland Castro? Vous militez pour cette idée-là aussi, ou vous dites qu'il faut du pragmatisme? Parce qu'il y a aussi cette question-là.
C'est un peu plus compliqué que ça, évidemment. Mais par exemple, surtout, moi, ce que je vous reproche, c'est les occasions de réforme, même si vous gardez le projet révolutionnaire. Par exemple, je sais pas, j'ai envie de vous demander, moi, je sors un papier bientôt dans Le Monde, normalement, qui dit qu'à l'occasion de cette crise épouvantable, notamment de la crise du travail, il serait bon de revisiter l'idée des chantiers nationaux et de faire un grand emprunt. Il y a une énorme épargne privée en France. Moi, je parle d'un emprunt de 200 milliards. J'ai même marqué...
Quel type de grand emprunt?
L'emprunt
Sarkozy.
L'emprunt
Sarkozy.
Attendez, 3 000% mieux qu'une banque. Et qu'avec ça, on fasse le Grand Paris, le Grand Marseille, le Grand Lyon, des grands travaux, la mutation écologique de l'industrie, etc.
Pour lancer l'économie...
C'est des questions comme ça. C'est ce que je trouve... On pourrait vous reprocher, à mon avis, ce qui fait que vous êtes quand même perpétuellement marginal dans vos scores, même si Arlette Laguiller, à une époque, a vraiment incarné une voix comme ça, c'est que vous n'êtes pas dans des propositions.
Bah écoutez, réponse concrète.
Propositions concrètes.
Bah
évidemment que le SMIC à 1700 euros, les gens qui crient, ils crient d'or frais pour dire tout va s'écrouler, c'est complètement faux. Bah,
les socialistes sont très opposés à cette proposition. Et donc à la vôtre, de fait.
C'est pas la même. Non, mais moi
je soutiens aussi cette proposition.
C'est 1700 euros le SMIC, et puis, je le dis, l'indexation du salaire sur les prix. Ça, c'est important, mais c'est indispensable, ça. Et c'est très concret.
Par exemple, quand je vous dis... lançons un grand emprunt et faisons des chantiers nationaux. Vous dites quoi? Oui ou non?
Bah moi, je dis que l'argent public, il n'y a même pas besoin de faire un emprunt, que l'argent public devrait servir à cela. Dans mon programme et dans ce que je dis à tous mes meetings, il y a justement un terrain sur lequel le capitalisme a échoué, mais de façon patente, manifeste, c'est le logement. C'est le logement. Voilà. Construire des logements sociaux, ça n'intéresse aucun bétonneur. ni Vinci, ni Eiffage, ni Bouygues, ça ne les intéresse pas, c'est pas leur problème, c'est pas assez rentable. Bon, eh bien ça, c'est la faillite du capitalisme sur ce terrain-là. Donc nous, nous disons, il faut que l'État s'en charge, voilà, tout simplement, que l'État crée un service public de construction. Mais non, mais c'est pas lui qui construit, c'est toujours des promoteurs, il faut passer par des promoteurs, il faut qu'ils achètent à des prix d'or les terrains. Non, que l'État préempte les terrains, que l'État embauche directement des maçons, des architectes, des peintres, des... Voilà, et qu'ils les construisent, ces logements. Pourquoi ? Dans les caisses publiques, des Dassault, hein, les Dassault tapent dans les caisses publiques pour financer le Rafale. Ça nous coûte, ça nous aura coûté 40 milliards. Et pourquoi ces caisses publiques et cet argent public ? Mais oui, et pourquoi ils ne serviraient pas à cela ?
C'est mon côté gamin, je trouve que c'est un très très bel avion. Il faut oublier que c'est un avion de combat. Mais
ah oui, voilà, c'est un petit détail. Il a fait quelques expérimentations en Libye en larguant quelques bombes. Tout ça, on oublie.
Mais bon, pardonnez-moi cette dérive esthétique.
Justement.
Mais on dirait quand même une guêpe.
Incroyable. Alors juste, Nestor, votre question, et j'ai une image à montrer.
Et les ouvriers, à mon avis, doivent être très très fiers de cet avion. De cet avion
mais ils seraient fiers aussi, je pense, d'un avion civil.
Oui,
voilà.
D'accord.
C'est une parenthèse architecturale, enfin esthétique. Nestor Elias, votre question. Une question, Nestor Elias.
Bah, pour illustrer le sujet, et la question, elle est simple. Vous savez, en pourcentage de PIB, quel est l'apport à la France de la banque et des assurances, et quel est l'apport de la production industrielle, de la production des transformations des matières?
Alors, c'est une question un peu technique. Vous êtes prof d'économie et de gestion, je crois. Donc, on va voir quel est l'apport de la partie service assurance, de la production industrielle, de ce qu'on fabrique réellement avec des ouvriers. Et nous demande Nestor Elias. Vous avez une réponse? C'est un peu le prix du ticket de métro. C'est.
Je sais pas. Non, peut-être, je sais pas, 3 fois, 4 fois, je sais pas.
Alors, Nestor Elias.
Je parle des services et des banques, évidemment. Qui représente peut-être 3 ou 4 fois la production industrielle.
Vous avez une réponse, Nestor Elias, parce que c'est une question-réponse que vous avez.
Oui, j'ai la réponse.
Oui, allez-y.
Et vous pouvez la regarder dans les sites de l'INSEE. Je pense que c'est officiel.
Bon, alors donnez-nous le chiffre, parce que là, on
pire. Les banques, les assurances, en général, la finance et les assurances, n'apportent même pas 5% du PIB national.
Ah.
Alors que la production industrielle, elle apporte la production en général. Si j'ajoute pas la partie scientifique, l'éducation, j'apporte juste la production industrielle, elle dépasse le 40%.
Alors
il faut pas mentir, c'est parce que nous, on se ment. Mais si nous, j'ai un forum, moi, j'ai un blog dans lequel je note beaucoup des informations de ces gens-là. Parce qu'il faut informer les gens correctement. On nous dit, la finance contrôle tout. Mais quel est l'apport en PIB?
Ouais. Donc il y a encore
d'accord, je comprends qu'il est obligé.
Il n'a absolument pas.
Donc, il a
pas
ah bah moi, je suis d'accord que c'est l'industrie qui crée les richesses, bien sûr.
Une vision un peu déformée.
Il n'a pas tort sur cette histoire d'apport au PIB. C'est qu'on peut dire que depuis bien des années, une des grandes BU était de dire, et ça, c'est depuis Raymond Barre, la France sera d'abord une économie de services. Et alors, après, sous la gauche, ça devient l'économie de matière grise, ce qui est un peu mieux parce que c'est de la production. Donc, on va inventer. Donc, moins de production industrielle parce qu'on va aller... on va aller délocaliser, puis c'est formidable parce que les anciens camarades de mon ami Roland, c'est-à-dire les communistes chinois, offrent de la main-d'œuvre moins chère au capitalisme. Ce qui est quand même la destinée du communisme, c'est un peu terrible.
Alors, c'est-à-dire conclusion, conclusion,
arrête
d'embêter.
Vous savez, tous les dictateurs qui se collent des étiquettes sur le front, vous n'allez pas les croire. Donc, non.
L'élan révolutionnaire. Non, chinois,
je suis d'accord qu'effectivement, c'est l'industrie, c'est la production matérielle qui produit des richesses. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, elle est parasitée par les intérêts financiers, justement, et qui, y compris ceux qui dirigent, se moquent de savoir ce qu'ils produisent. S'ils produisent des voitures, des médicaments, il faut qu'ils produisent du fric, voilà, de l'argent, des profits, c'est ça leur problème. Et ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour ça, même les industries de pharmaceutiques, regardez, de commercialiser des médicaments qui tuent, voilà. Et on est dans ce système-là qui marche sur la tête. Donc nous disons que si effectivement les travailleurs reprenaient le contrôle de cela, hein, pouvaient avoir leur mot à dire, pas seulement sur les comptes des entreprises, mais y compris sur leurs projets, leurs décisions, leurs investissements, ce qu'ils avaient, leurs innovations. Eh bien, voilà, ça marcherait beaucoup mieux. Ça marcherait d'abord pour satisfaire, je pense, les besoins de toute la société.
Merci Nathalie Arthaud. Vous serez au Zénith le 15. C'est ouvert évidemment à tous, à tous ceux qui veulent venir vous entendre.
Vous serez les bienvenus.
Guy Konopnicki, merci d'être venu sur ce plateau. Guy Konopnicki, le jour où De Gaulle est parti, 27 avril 1969, à découvrir, il est sorti chez Nicolas Ebalim. Et puis je remercie Roland Castro, autant pour ses positions politiques que pour ses positions esthétiques, puisqu'on a fait de l'esthétisme comme ça, hein, d'un trait. Merci, merci à vous trois. Merci à Nestor Elias qui était en direct devant sa webcam. Il tient un blog, donc c'est une information. Merci à tous ceux qui nous ont écrit. Vous avez été nombreux. Selon vous, les propositions de Nathalie Arthaud répondent-elles vraiment aux attentes des ouvriers? Question du JDD, vous pouvez continuer à voter. 500 votants, 72% disent non, mais 28% disent oui. C'est bien au-dessus des 0,5 qu'annoncent les sondages. Merci de venir sur ce plateau.
Je vous remercie.
Merci de nous suivre. À très bientôt pour la suite de nos programmes.